Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv/tdactu, une émission qui vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. Il y a quelques équipes qui sont déjà plus en course pour les playoffs, ce qui n'est pas le cas donc des Jets et des Jaguars. Pour eux, la saison draft commence, hein, on parle des Bears, on parle des Texans, on parle de quelques autres. On a décidé de vous donner un petit avant-goût et de vous expliquer aussi au passage ce qui va se passer sur TDA dans les semaines et les mois à venir. On va donner les grands enjeux de la draft. Alors évidemment, les podcasts ont déjà commencé, c'est tous les vendredis depuis la rentrée. Je vous invite évidemment à les écouter, je vous invite évidemment à lire les articles. Il y a déjà eu une mock draft, je vais mettre la rubrique draft à l'antenne quand même. Voilà, vous le voyez, il y a des podcasts, il y a des fiches toujours de Jean-Michel Boujard, Victor Roulier, Nitinia, enfin tout le monde participe, hein, il y a du monde, j'ai pas la fiche devant moi, j'ai oublié des gens donc je m'en excuse. Donc voilà, il y a des histoires, il y a des podcasts, etc. Mais si vous n'avez pas eu le temps de suivre, parce que vous êtes à fond dans la saison NFL, parce qu'il y avait un peu la Coupe du Monde pour certains, etc. On va vous faire un petit, une petite présentation. Grégory, on en revient à ça parce que c'est un peu la base. Base du jeu, c'est la base du truc qui nous excite quand on connaît pas les prospects. Greg, est-ce qu'il y a des quarterbacks qui vont changer le destin de ma franchise dans cette draft NFL 2023?
Eh bah, ben peut-être, mais alors si c'est le cas, ils viendront de loin.
Ah, c'est pas bon ça.
Alors très concrètement, ça va être une draft très particulière, notamment sur la question des quarterbacks, parce que on est dans une période. J'allais dire de mutation, mais en tout cas dans une période de transition très marquée au niveau du football universitaire, avec les nouveaux droits d'image et la possibilité pour de nombreux prospects potentiels d'éventuellement changer d'université plus facilement, d'accéder à ce qui est désormais connu comme le fameux portail des transferts.
Alors, c'est vrai que j'avais pas prévu d'en parler, mais c'est un délire. J'ai l'impression que ces derniers jours, je ne vois que ça, c'est devenu la NBA, en fait.
Tout à fait, et c'est exactement ça. Alors, c'est toujours plus ou moins régi par le nombre de transferts que tu fais dans une université. Il faut toujours être plus ou moins éligible, mais avec des règles beaucoup plus flexibles qu'auparavant, où vraiment juste un simple transfert pouvait être extrêmement encadré. Désormais, c'est plus vraiment le cas. Et du coup, oui, en fait, on a cette espèce de frontière entre des joueurs qui sont susceptibles d'être draftables relativement haut, mais qui veulent éventuellement avoir un autre challenge dans une équipe peut-être plus huppée pour se faire la main. Donc du coup, on a 2-3 joueurs dans ce cas de figure-là qui ou sont retournés à l'université ou ont carrément décidé de s'inscrire sur le portail. Et du coup, ça restreint, mine de rien, l'attractivité, on dira, du poste de quarterback avec certains joueurs. Alors, il y a des joueurs établis, encore une fois, les deux principaux, on les avait cités notamment, enfin, on les cite régulièrement dans les podcasts avec Victor et Jean-Michel, et on l'avait cité notamment lors de la mock draft qu'on avait fait sur Twitch il y a quelques semaines de ça. C'est Bryce Young d'Alabama, présenté quarterback d'Alabama, de toute façon, voilà, il y en a tout le temps. Hein. On rappelle que dans les quarterbacks d'Alabama, Jalen Hurts, Tua Tagovailoa, Mac Jones, pour reprendre les précédentes années. Donc Bryce Young est le favori numéro 1, et ça, je pense que ça ne devrait pas changer. Et on a CJ Stroud, donc quarterback d'Ohio State. Là aussi, les quarterbacks des Buckeyes qui ont toujours la cote ces dernières années, avec plus ou moins de succès. Dwayne Haskins ou encore Justin Fields, pour ne citer que sur les dernières éditions. Donc ça, c'est les deux principaux qui ont une très grosse cote parce qu'ils sortent de gros programmes et parce qu'on sait concrètement, on a quand même une idée du fait que c'est des joueurs qui vont être relativement établis, qui savent pour le coup par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec Zach Wilson, peut-être répondre un peu plus à la pression que d'autres. Donc voilà, il y a ces joueurs-là qui apparaissent des quasi top 5 assurés. Derrière, c'est beaucoup plus confus.
Alors, en un mot, attends, avant de passer à
Oui.
la suite. Bryce Young, moi, je l'ai vu parfois comparé à Kyler Murray. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose?
Il y
Est-ce que
a un
c'est une
côté.
bonne ou une mauvaise comparaison, d'ailleurs?
Il y a un côté comme ça. Je sais que Victor récemment l'a comparé par exemple à Drew Brees. Mais alors après, c'est toujours pareil. Il y a
C'est
un
pas la même
côté.
chose, hein, Brice Murray.
Alors, avec des attributs différents, voilà.
Ouais.
On va dire des qualités similaires chez les deux. On va dire que forcément Bryce Young a cette mobilité-là. En fait, c'est ça. En fait, il disait que c'était un Drew Brees en plus mobile ou en tout cas en ce qui correspond un peu plus en ce que cherche un peu plus la NFL aujourd'hui. Donc Bryce Young a cette mobilité-là et en effet, il y a une ressemblance avec Kyler Murray parce que le côté extrêmement petit, assez insaisissable, etc. Il y a en effet cette idée-là. Il y a un bon bras également, ça il l'a démontré. Mais ce qui est impressionnant encore plus, je trouve, avec Bryce Young au fur et à mesure des mois, c'est le côté clutch qu'il arrive à avoir. Donc et là aussi, oui, on peut retrouver certaines similitudes également avec Kyler Murray qu'on a un petit peu trop, je trouve. Essoré parfois du côté d'Arizona dans le système Kingsbury, mais qui a largement démontré qu'il était capable de faire des actions clés, des actions brio. Bryce Young peut avoir en effet cette aptitude-là si on part sur ce comparatif, en effet.
Le CJ Stroud, donc, qui est le deuxième homme, lui, c'est pas le même gabarit, c'est lui qu'on a en photo, hein, là, d'ailleurs, au moment, à l'écran. Donc, ça va pas être les mêmes qualités. Je vois dans le chat, par exemple, où est-ce que j'ai vu? Qui a des top receveurs, mais qui perd face à Michigan, est-ce que il est moins clutch, alors?
Bon, c'est pas la seule défaite contre Michigan qui, moi, m'inquiète, hein, parce que voilà, j'ai plus été apeuré par la défense d'Ohio State que par les performances de CJ Stroud. Après, c'est vrai que malheureusement, alors ça, on peut pas dire le contraire. C'est sûr que du côté d'Ohio State, si tu veux avoir des stats dans les airs qui flambent au niveau des receveurs, tu vas être gâté, hein. Il a joué avec Garrett Wilson et Chris Olave. Quand on voit comment les deux tournent cette saison, on se rappelle que c'est pas trop trop mal. Enfin, y a énormément de bons receveurs de toute façon ces dernières années à Ohio State. Et encore une fois, c'est vrai que j'ai ce gros défaut-là de comparer des quarterbacks qui sortent d'une même université là, d'une même université, pardon. Mais voilà, on a du mal par rapport à ce que je disais tout à l'heure avec Justin Fields à pas avoir cette petite idée en tête de se dire, bah oui, mais est-ce que c'est pas aussi le système qui lui permet de briller? Est-ce que c'est pas, voilà, est-ce que le travail lui est pas facilité justement pour qu'il y ait un maximum de stats, un maximum de capacité à être,
J'ai
à lancer le ballon
l'impression
rapidement et à être performant verticalement.
que tu crois pas beaucoup en fait dans les quarterbacks de cette année, non?
Bah, moi en plus, pour le coup, l'année dernière, j'aimais beaucoup CJ Stroud. En tout cas, je trouvais qu'il apportait quand même une certaine agressivité, une certaine insouciance presque dans sa manière de jouer, le côté presque un peu facile, sans prendre l'exemple de Joe Burrow, mais ouais, ce côté justement un peu, voilà, on y va en tant que crânement dans notre chambre. Et je trouve que pour le coup, mentalement, il m'a un peu plus inquiété ces derniers mois. Je suis désolé, ça va faire beaucoup une thématique ce soir. J'ai l'impression d'être psy,
Ça fait
mais
partie du
voilà.
jeu.
Mais c'est vrai qu'au départ, j'étais plus vers Stroud que vers Young, et il y a plus de motifs qui du côté de Young, alors que pourtant, alors Young a des receveurs peut-être un peu moins clutch, mais en tout cas un système offensif, je pense, ou en tout cas une attaque avec un nombre de stars assez notable également. Mais voilà, on sent que Young prend peut-être un petit peu plus ses responsabilités et que des fois Stroud, en effet, sur les quelques matchs où Ohio State a pu douter, on n'a pas senti que c'était celui qui pouvait éventuellement voilà, tirer son équipe, on va dire, du guépier.
Sur le chat, il y a Guigui qui dit il croit en Monsieur Café Mayonnaise, Grégory.
Oui, bah alors
Alors,
je
c'est quoi
crois.
cette
Alors je ne
histoire
crois pas en Monsieur Café
immonde
Mayonnaise.
puisque ça a l'air immonde, d'ailleurs. Bon, il est
Ah oui,
américain,
parce que
ça, c'est sûr.
toi tu connais pas l'anecdote.
Mais, alors, ça me dit vaguement quelque chose, là, de le lire, mais...
Will Levis, quarterback de Kentucky,
Ok.
du coup, s'est présenté. Alors, ça fait partie de ces joueurs, encore une fois, qui, je pense, auraient gagné à retourner une année en universitaire, mais qui, je pense, se présentent parce qu'il y a une voix royale derrière les deux principaux quarterbacks. Il y a énormément d'attributs qui sont intéressants. C'est un joueur mobile, c'est un joueur qui a une capacité de lancer assez rapide. C'est un joueur qui est capable de faire des stats à la passe et l'a montré dans des systèmes gérés par des coordinateurs NFL. Donc il y a une transition qui ne devrait pas être si compliquée que ça. Il y a une problématique de perte de balle. Il y a, je trouve, parfois une capacité, enfin, une aptitude à paniquer, une aptitude, un côté, un penchant à paniquer un petit peu dans la poche. Mais pour le coup, c'est vrai que sa O-line était vraiment nulle en 2022. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il va falloir essayer, là encore, comme je disais avec Zach Wilson tout à l'heure, de faire un petit peu, de pas trop accentuer les traits sur sa belle saison 2021 ou de trop accentuer les traits, pardon, sur sa moins bonne saison 2022. Mais c'est un joueur qui est largement perfectible aujourd'hui, qui doit travailler notamment sa précision. Enfin voilà, qui est encore un petit peu brut malgré tout. Et c'est vrai qu'il a ce défaut assez impressionnant, c'est qu'il boit son café avec de la mayonnaise.
Mais qu'est-ce que c'est que ce délire?
Eh oui.
C'est mais
Ça, je pense que, ouais, ça, je
c'est
pense que
quand tu
lors
lis
des
des
interviews, ça peut être un peu
c'est quand tu
rédhibitoire.
lis des horreurs pareilles que tu te demandes comment les Américains arrivent à influencer autant de monde, tu sais, sur leur parce que
C'est ça.
y a que là-bas que tu peux trouver des mecs qui mettent de la mayo dans leur café. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, c'est une insulte à tellement de pays à la fois de mettre de la mayo dans le café, je peux même pas les lister. Donc, on a parlé un petit peu des trois principaux quarterbacks. On va pas tous les faire. Est-ce que tu en as un qui pourrait être une
Oui.
surprise? Au sens où, alors quand je dis surprise, c'est un mec que tu verrais réussir, mais qui sera peut-être choisi, j'en sais rien, au 3, 4, 5, 6e tour.
C'est compliqué, hein. Je te dis franchement, c'est là
Qui
tu me demandes de refaire une
est.
hot take. Tu sais que je fais ça avec succès sur les quarterbacks ces dernières
Non, mais
années.
j'allais dire, une question hyper facile, qui est le Tom Brady de cette draft, tu vois?
C'est compliqué. Moi, y a un profil que je trouve très très intrigant. Et d'ailleurs, ça fera plaisir à Victor s'il est toujours sur le chat et je lui ai déjà dit. C'est le quarterback de UCLA, Dorian Thompson Robinson, qui pour moi, en effet, est un joueur peut-être assez fantasque dans son jeu, très facétieux. Il peut faire une action de brio, enfin, il peut faire une passe verticale, un big play qui amène son équipe en zone rouge et derrière faire un fumble extrêmement grossier. Mais encore une fois, ça fait partie de tous ces joueurs qui, de toute façon, sont relativement bruts, largement perfectibles. Et je trouve qu'à l'inverse, par exemple, d'autres joueurs, tu vois, dans les joueurs assez intrigants, il y a un joueur qui pourrait être premier tour, alors que l'échantillon qu'on en a vu est très, très, très faible et qu'il a quasiment joué que la saison 2022, en l'occurrence. Je parle du quarterback de Florida, Anthony Richardson, pour ceux qui voudraient avoir son nom. Je trouve qu'à l'inverse, Thompson Robinson, alors, il a joué dans un système type, qui n'est pas forcément très apte à être translaté, on va dire, en NFL, le système de Chip Kelly du côté du UCLA. On a vu qu'avec les quarterbacks d'Oregon, c'était pas toujours très, très souvent couronné de succès. Donc ça peut être forcément une problématique à prendre en compte. Mais je trouve que c'est un joueur qui s'est développé petit à petit, qui a vraiment fait ses 4 années à la fac en tant que titulaire et qui a montré ces derniers temps un certain leadership, une capacité à être dangereux, que ce soit à la passe ou dans les airs. Donc c'est vrai que Victor aime bien taquiner en plus vu que c'est ses deux équipes, mais malgré tout c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu Jalen Hurts dans le côté où faut réussir à le développer et peut-être à en exploiter la marge de progression. Je pense que c'est un joueur qui sera plus aux alentours du 4e tour aujourd'hui, mais franchement vu la classe de quarterback, franchement ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Je pense que ça va beaucoup beaucoup bouger durant le processus draft sur la classe de QB.
Allez, assez parlé de quarterback. Quel est le meilleur joueur de cette draft, toutes positions confondues?
Will Anderson, pass rusher d'Alabama.
Donc lui, c'est top derrière quarterback, quoi.
Lui, c'est. Oui, bah no normalement, il aurait été numéro. On va dire que si Houston n'était pas numéro 1 de la draft, après, c'est toujours possible qu'il soit numéro 1. Hein, mais en tout cas, il est numéro 1 de mon big board. Il l'était déjà l'année dernière et il le reste aujourd'hui, même s'il a eu une saison 2022, je dirais peut-être un peu plus compliquée ou en tout cas, peut-être un peu moins facile que ce qu'on a vu l'année dernière. L'année dernière, il a affolé absolument toutes les stats. Il était constamment dans la poche adverse. Il est capable d'apporter du physique, de la vitesse. Techniquement, il est très propre. Le gros défaut, je trouve, majoritairement qu'il avait cette année, c'est des défauts de concentration. C'est là où on peut se demander s'il était pleinement focalisé ou s'il était déjà en mode faut que je fasse ma dernière année scolaire avant de partir l'année prochaine. Beaucoup trop de pénalités à mon sens. Mais c'est un diamant brut, c'est un joueur qu'on peut faire jouer absolument partout sur le front seven, enfin, principalement bien sûr en defensive end 43 ou outside linebacker 34. Mais ce qu'on lui demandera de faire, Victor aime bien le comparer à Von Miller, mais
C'est ce que j'allais te demander, voilà, une
voilà, c'est ce
comparaison.
type de profil-là. Et en plus, pour le coup, Miller avait été drafté numéro 2 derrière Newton à l'époque à la draft 2011. Il y a de fortes chances que Will Anderson soit numéro 2 en l'occurrence. Donc pour moi, ça reste aujourd'hui le meilleur joueur de cette classe. En attendant de voir ce qui va se passer durant les entraînements, on va dire le processus.
Est-ce que c'est une draft profonde?
Ça dépend sur quel poste tu cherches.
Alors, quels sont les postes où c'est profond?
Voilà. Alors, ce sera majoritairement une draft défensive. On va le dire tout de suite. Si on a besoin d'armes dissuasives contre la passe, on devrait trouver son bonheur. C'est une draft majoritairement axée sur du edge rusher, sur du cornerback. Je sais plus, encore une fois, sur la mock, il me semble qu'il y avait au moins 13 ou 14 choix, rien que sur ces deux postes-là, sur l'ensemble du premier tour. Donc, ce seront des denrées qui seront très recherchées. Sur l'intérieur de la ligne défensive, il n'y a pas beaucoup de joueurs, mais il y a des joueurs qui sont capables d'apporter aussi sur le pass rush. Donc ça, ce sera à surveiller. Et voilà. Donc, c'est les principaux postes, on va dire, les plus profonds. J'essaye d'en voir d'autres, mais ça me paraît pas aussi net que ça. C'est vraiment edge rusher et cornerback.
Il y a des postes où il n'y a rien, ou très 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 peu.
Il y a des postes où il y a moins que d'habitude, en tout cas, c'est receveur. Je pense que ces dernières années, on était vraiment, vraiment gâtés. Je crois que cette année, ça va être plus alors pas des paris, mais en tout cas des joueurs qu'il va falloir développer petit à petit. Et que vraiment, les joueurs, même au premier tour, ce seront peut-être pas des joueurs qui vont faire tourner des têtes dès le début. Les linemen intérieurs, c'est toujours un petit point d'interrogation. Même l'année dernière, j'ai pas la sensation qu'il y en avait énormément, et pourtant il me semble qu'il y en a deux ou trois qui sont sortis au premier tour de 2022. Donc c'est toujours quelque chose à surveiller durant justement le processus draft. Mais là aujourd'hui, ça me paraît un petit peu léger. Linebacker, c'est pas fou. Si on reste sur le côté défensif, il y a des postes profonds. Linebacker, c'est pas dingue. Il y a énormément de points d'interrogation, surtout de par ce qu'on demande au linebacker aujourd'hui, à savoir d'être extrêmement polyvalent et notamment d'être efficace contre la passe. Ça, c'est là où le bât blesse parce qu'on a des joueurs qui, paradoxalement, ont, on va dire, les aptitudes physiques, la taille, par exemple, pour pouvoir être utilisés sur le domaine aérien, mais qui ou n'ont pas été suffisamment utilisés dans ce domaine, ou n'ont peut-être pas, on va dire, cette faculté, cette mobilité à pouvoir utiliser leurs attributs physiques comme il faut.
Qu'est-ce que c'est que ce chantier de voir des running backs au premier tour dans les mock drafts?
Bah écoute, en l'occurrence, je pense qu'il n'y en aura
Qu'est-ce que c'est
qu'un.
que ce sacrilège?
Bah écoute, tu sais, je suis désolé, hein, je suis désolé, non, j'aime bien citer Victor Roulier, mais bon, je veux pas faire que de la paraphrase non plus. On m'a dit un jour qu'il y a des joueurs générationnels.
Alors, bah, donc
Bijan
les.
Robinson est un joueur générationnel.
Voilà, c'est ce que j'allais te poser. Moi, j'ai vu Robinson et Gibbs qui étaient dans certaines mock drafts au premier tour.
Alors Gibbs, je pense qu'il est plus polarisant parce
D'accord.
que Gibbs, c'est vraiment typiquement le profil du. Comment dire? C'est un top returner. Un top returner, pardon. Il jouera sur l'équipe spéciale dès la première année, ça c'est sûr et certain. On va dire que Jahmyr Gibbs, il y a un côté Alvin Kamara, donc c'est vrai que ça peut être très
D'accord.
polarisant. On rappelle qu'Alvin Kamara n'a pas été drafté dès le premier tour à sa sortie de draft, ni même en deuxième. Mais il y a ce côté-là, c'est-à-dire le côté très électrique, le côté très explosif, mais peut-être des petits points d'interrogation encore sur le fait de pouvoir justement l'exploiter sur du long terme. Bijan Robinson, voilà,
Alors oui, pourquoi il est générationnel?
il y a un côté total package, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a du gabarit, qui a une prise de vitesse hors norme, qui a des appuis absolument phénoménaux. Enfin voilà, c'est un joueur qui sait absolument tout faire. En sortie de backfield, il est précieux, il a des excellentes mains à la réception, il est précis sur le pass pro. Enfin, c'est encore une fois, si sa position ne le dévaluait pas à ce point, il serait top 5 les yeux fermés.
Donc c'est quoi? C'est un...
Bah, il y en a qui le comparent. Si on prend la comparaison pure et dure, ça aussi, enfin, c'est Morgan, du coup, mon camarade de Bullpen, qui prenait cette comparaison il n'y a pas longtemps. C'est un type de Saquon Barkley. Saquon Barkley était numéro 2.
Oui, j'allais dire. Oui, en plus, je l'ai sous les yeux. Je vois Saquon Barkley 2.0. Parce que j'allais dire, avant, c'était Peterson ou Derrick Henry la référence, mais donc là, si je comprends bien, il est meilleur receveur.
Ah oui, carrément,
Ouais.
carrément. Mais c'est Derrick Henry, le deuxième nom que tu as cité?
Oui,
Oui,
c'est...
là. Et Derrick Henry, pour le coup, c'est pareil. Il y a souvent ce truc de ils sont pas draftés au premier tour et vous voyez qu'ils réussissent. C'est vrai que Derrick Henry, encore une fois, il y avait aussi des limites qu'on voit malgré tout aujourd'hui. Hein. C'est pas pour ça que les défenses arrivent à le stopper. Mais voilà, il y a un côté physique, mais pas forcément des qualités athlétiques aussi notables que chez d'autres running backs. Ça l'empêche pas de briller, encore une fois.
Henry, il
Mais
avait mis quelques années à se mettre en jambes en plus, hein. Il est pas tout de suite
oui.
hyper fort en NFL.
Oui. Mais oui, enfin, pour moi. Ah, Peterson, c'est toujours compliqué à comparer parce que, mais c'est le même type d'impact. Pour moi, c'est le même type. Pour moi, oui, pour le coup, je te rejoins. Je pense qu'il peut avoir le même type d'impact. Il peut plus avoir le type d'impact d'un Peterson que vraiment d'un Barclay, je pense. Il peut avoir ce côté-là, même si Peterson, c'est une autre époque, donc c'était vraiment une armoire à glace.
Oui, c'est ça, c'est pas le même.
Voilà. Et, bon. Et a priori, de ce qu'on en a vu jusque-là, il y a eu, mais normalement, il commet pas autant de fumble que Peterson. Je pense que les points communs vont s'arrêter là.
C'est une bonne nouvelle.
Mais voilà, oui, il y a cette espèce de mix, mais encore une fois, je veux pas en faire trop. Voilà, ça, je me suis enflammé sur Najee Harris, même s'il est encore, c'est pas du tout le même profil. Najee Harris, c'est un joueur plus tanké, voilà, plus, c'est, je le disais, moi, ce que je soulignais avec Najee Harris, c'était aussi cette capacité, avec le gabarit qui était le sien, à pouvoir sortir à pouvoir être exploité en sortie de backfield. Et on voit qu'il est encore capable de le faire chez les Steelers, même si là aussi, je pense qu'il y a des problèmes plus vastes et que son intégration a peut-être été un petit peu, trop tendre, hein, très clairement. Mais oui, Bijan Robinson, moi, pour moi, il sera premier tour les yeux fermés s'il n'y a pas de problème de blessure.
Il n'en a pas d'avant. C'était demandé dans le chat, notamment. Il n'a pas de problème. Je dis, c'était demandé dans le chat. Il n'a pas de problème de blessure à la fac.
Pas dans mon souvenir.
Non.
Peut-être des micro-blessures, mais en tout cas, rien qui l'ait fait manquer.
Tant qu'il ne s'est pas fait les croisés ou le tendon d'Achille, c'était un peu la question.
Non, il y en a quelques-uns, mais je n'ai pas dans le souvenir. Je m'excuse si j'oublie, mais en l'occurrence, non, Bijan Robinson. Alors ça, c'est toujours l'autre interrogation, hein. C'est qu'encore une fois, c'est des joueurs sur lesquels on a beaucoup misé, on a beaucoup compté à la fac, et il a toujours répondu présent. C'est le type de joueur comme Christian McCaffrey à Stanford qu'on a énormément sollicité et qui était toujours là. C'est des joueurs comme Jonathan Taylor à Wisconsin qu'on a toujours sollicité et qui était toujours là. Voilà, c'est encore une fois, c'est des joueurs besogneux et polyvalents. Donc je le répète, pour moi, c'est un profil premier tour. Après, ça dépend de l'amour que tu as et pour le running back et pour le joueur.
Ouais, notamment pour le running back, parce que si je suis mauvaise langue, je te dirais « Ah, oh, j'espère qu'ils vont le sélectionner très haut ». Quand on voit tous les Super Bowls glanés par Adrian Peterson, Saquon Barkley et Derrick Henry, ça me paraît vital.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça, je le dis, et en plus j'en ai parlé là aussi avec Victor, parce que quand on a fait la mock, je m'occupais des Eagles. Moi, pour moi, Bijan Robinson, entendons-nous bien, je pense que ce sera principalement, je pense, un luxe, on va dire, pour une équipe.
J'allais dire, est-ce que c'est pas le choix idéal si t'as déjà une bonne ligne, en fait, que t'es déjà une bonne équipe et que là,
si t'es déjà globalement complet.
Ouais.
Si t'es déjà globalement complet, ouais. Pour moi, voilà. Alors après, tout dépend si t'as vraiment besoin d'un running back, si t'as pas d'autres besoins, mais globalement, si ton équipe est complète, je vois pas trop quel est le risque, quel est le danger d'avoir Bijan Robinson. On va toujours nous dire, oui, il y a pas des premiers tours qui gagnent, mais, cette année c'est compliqué, mais Leonard Fournette, quand il arrive à Tampa Bay avec malgré tout à l'époque son statut de quatrième choix de la draft, et qu'il arrive pour renforcer Tampa Bay et permettre justement à l'attaque d'être un peu plus complète, on va dire, d'un point de vue offensif, et d'aller gagner le Super Bowl, je pense qu'on s'en est pas plein. Mais bon, après voilà, j'ai pas tout mélangé non plus, vous voyez à peu près ce que je veux dire.
Tu penses qu'il va alors là, en dehors de nos avis sur les choix, etc., tu penses qu'il va tomber à peu près autour de quel choix? Plusieurs supporters, évidemment, sur le chat voudraient bien savoir s'il va tomber jusqu'à eux, éventuellement, notamment les Bills. Il y a Orlin qui demande s'il pourrait tomber jusqu'aux Bills. Bon, les Bills vont être très bas dans la draft.
Bah, le truc, c'est que on pourra pas mettre de côté le fait qu'il y aura au moins deux, voire peut-être trois quarterbacks draftés dans le top 10. Je l'ai dit.
Ah ouais, dans le top 10. Ah oui, non, les quarterbacks, pardon, je crois que
les quarterbacks, oui, les quarterbacks. Les linemen défensifs, notamment les edge, je le disais tout à l'heure, je pense qu'on aura au moins peut-être 2-3 également, et il devrait y avoir un corner au minimum qui traîne. Enfin voilà, la ligne défensive, globalement, voilà, ça devrait quand même bien investir le top 10. Je pense que c'est un joueur qui peut aller se récupérer entre les postes 11 et 20.
Alors, parce que sinon, on a Houston, Chicago, Seattle, Détroit, Arizona. Arizona, non, pour aller avec Kyler Murray, mais 5, ça fait haut peut-être.
Pourquoi pas? Mais je promets des running backs à Arizona tous les ans, donc on finit par me détester. Je pense qu'il y a des besoins plus, notables. Hein, je
Atlanta,
pense, notamment en défense, corner, edge, tout ça.
Atlanta, ça te ferait pas kiffer pour aider Desmond Ridder?
Moi, je préférerais un quarterback, mais. Pardon. Mais pourquoi pas? Mais après, le jeu au sol fonctionne mieux à Atlanta et ça fait pas partie justement des franchises qui peuvent se permettre un luxe.
Tu vois un scénario un peu foufou où Houston fait un quarterback en 1 et puis en 11 ils prennent.
Non.
Je sais pas. Hein.
Non. Par contre, le cas inverse est possible. Après, je pense qu'ils sont très contents de Damien Pierce, mais
Ah oui, ils ont Damien Pierce, je suis bête, j'avais oublié Damien Pierce de toute façon. Jacksonville, ils ont. Donc toi, tu disais entre 11 et quoi?
Entre 11 et 20. Et il y a Seattle en 16. Comme
Oui,
ça,
il y a
c'est
Seattle
fait.
qui en voudrait bien le plus. Seattle, New England,
Il y a Tampa
Détroit,
Bay en 19. Je dis
Tampa,
ça, je dis
ouais.
rien.
Tampa,
Voilà.
ouais. Oui, parce qu'en fait, il y a pas mal d'équipes qui ont déjà des coureurs un peu établis dans la liste, là.
Si tu prends le... Oui, en l'occurrence, si tu restes sur ces spots-là, ouais, pour moi, je dirais peut-être Tampa, ouais, avec le plus de chance. Je les avais mis aux Chargers à l'époque où ils étaient classés 16e. Je sais que ça avait fait grincer beaucoup de dents. On va me dire qu'il y a des besoins en défense aux Chargers, je le pense aussi. Et voilà, ça dépendra de qui est disponible à l'instant T. Mais on voit que des fois, il y a des choix un petit peu impulsifs et qui peuvent amener à faire, à se dire, ah
Ah ouais.
tiens, les Chargers, oui, on prend beaucoup de points, mais si on en marque 45 au lieu de 40, ça peut peut-être faire la différence.
Ouais, c'est marrant, oui, parce qu'en effet, j'ai du mal en fait à voir dans quelle équipe il.
Baltimore, pourquoi pas?
Ouais,
Bon,
j'ai
on
tenté.
sait que c'est une habitude aussi ces dernières années, mais là, le problème, c'est que d'un point de vue santé, c'est plus problématique, par exemple, que les Seahawks.
Ouais, non, mais ouais, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Pour revenir un petit peu sur l'ensemble de cette draft, on va se diriger tranquillement vers la fin de cette rubrique. Greg, est-ce que toi, t'as un ou deux coups de cœur? Tout poste confondu, vraiment des mecs, que ce soit premier ou sixième tour, hein, n'importe, mais vraiment des mecs dans lesquels toi tu crois profondément, que t'aurais, si demain on te disait tu peux l'avoir dans ton équipe, tu signes dès demain, quel que soit le poste. Vraiment tes
Ah,
chouchous, quoi.
je t'avoue que j'ai retenu des choix intrigants, mais ouais, des chouchous. Pour l'instant, je suis encore un peu sur la réserve. Il
T'as
y a
pas
un
un mec qui
choix.
te fait vraiment kiffer quand tu regardes
Alors,
la NCA, par exemple?
il y a un choix facile. Pour moi, bah, Will Anderson, moi je signe dès demain, hein, mais ça va
Oui,
être
là, t'es sur
compliqué.
meilleur
Ça va être
joueur direct.
compliqué pour Atlanta d'avoir, mais entendons-nous bien. Non, mais les Edge, je pense qu'il y aura vraiment il y aura beaucoup de bonnes affaires potentielles. Non, un joueur pour le coup qui sera plutôt un premier tour, Brian Breesy, lineman défensif de Clemson. Alors, j'en parle comme si c'était établi. Il me semble que pour l'instant, il s'est pas inscrit. C'est vraiment le profil du defensive tackle moderne. C'est un gabarit à la Chris Jones, c'est une capacité à aller chercher le quarterback à la Aaron Donald. Le problème, c'est que là aussi, l'échantillon est relativement faible malheureusement sur ces 2 dernières années. Il y a eu notamment une rupture des ligaments croisés. Tiens, je me posais la question tout à l'heure. En 2021, pardon, il y a eu un début de saison manqué malheureusement en 2022 pour des problèmes personnels, à savoir le décès de sa petite sœur. Donc malheureusement, c'est vrai que on sait que c'est un joueur hors norme de ce qu'on en a vu, en tout cas du faible échantillon qu'on a pu en voir. Il a contribué dans une défense de Clemson qui a habitué ces dernières années à sortir pas mal de linemen défensifs de qualité. Il y a un projet qui est extrêmement intéressant. Et pour le coup, voilà, je ne sais pas encore s'il va se présenter, je le répète, il n'y a rien qui est officiel, mais je pense que c'est un joueur qui peut faire énormément de dégâts dans la ligue, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, je pars du postulat qu'il se présente. Donc du coup, je partirai sur Brian Breesy. Un autre joueur éventuellement que j'aime bien, Michael Mayer, tight end de Notre-Dame, là aussi, ce n'est pas très original pour l'instant, annoncé au premier tour. Là aussi, tight end assez complet. Je sais qu'on m'a posé la question sur un autre podcast récemment. C'est pas du tout la même chose que Kyle Pitts, qui est plus un profil
Receveur,
dangereux à
ouais.
la réception. Michael Mayer, c'est plus complet. Déjà, c'est du tight end de Notre-Dame, donc on sait que généralement sur du bloc ou sur de la réception, ça peut être voilà, ça peut être assez polyvalent. Et voilà, je trouve que notamment à la réception, il est capable d'apporter un petit peu plus. Il est plus précieux pour faire bouger les chaînes, par exemple, qu'un Cole Kmet du côté de Chicago. Hein, mais bon, en même temps, Cole Kmet est sorti au deuxième tour. On n'attendait pas forcément autant. Je sais que l'avis sur Michael Mayer est un peu polarisant, mais voilà, c'est un top 20 quasi sûr pour moi, là aussi, hors blessure. Et certains l'appellent déjà Baby Gronk, pardon, mais c'est voilà, c'est la comparaison facile. Mais c'est aussi voilà sa capacité à lui, sans avoir le physique un peu longiligne de Kyle Pitts, sa capacité à être un vrai danger sur n'importe quel match-up, à pouvoir justement s'adapter à des safeties, à des linebackers, à ce type de profil-là, pour pouvoir être extrêmement dangereux, notamment en zone rouge. Donc voilà, c'est mes deux petits chouchous en attaque et en défense pour l'instant. Voilà, je creuserai peut-être un petit peu plus la question pour les joueurs en retrait, on va dire.
Bon, il y a encore beaucoup de temps pour creuser la question. Je vous remets le site parce que Greg, on va rappeler donc qu'il y a plein de choses qui arrivent. Vous avez déjà un podcast toutes les semaines avec l'équipe Draft, Victor Roulier, Jean-Michel Boujard, Alex, Mehdi, Nitinia, etc. Ça se relaye, mais principalement Victor et Jean-Mi. Greg, on te retrouvera évidemment avec eux au fur et à mesure. Beaucoup de... Greg gère l'écrit aussi sur le site et la rubrique.
J'essaye en tout cas.
Voilà, qu'est-ce qui nous attend dans les semaines à venir ? Il y a les fiches, on le voit, les portraits de Jean-Michel, on a les podcasts. Il y a aussi des tops qui arrivent sur le site.
Oui, tout à fait. Bah, on devrait, a priori, il va y avoir des rankings, je pense, qui vont être actualisés. Là, faut bien rappeler un petit peu qu'on est sur une phase, on va dire, pas de transition, mais en tout cas d'annonce. C'est-à-dire que, bah, du coup, avec la fin de la saison régulière en college football et le début des bowls, il y a quelques jours de ça. Mmh. On est dans une période où il y a des joueurs qui annoncent qu'ils vont se présenter, mais qui ont encore jusqu'à la fin du mois de janvier, je crois, une dizaine de jours, notamment avant le Senior Bowl. Pour pouvoir justement, pour pouvoir du coup confirmer qu'ils sont là. Donc voilà, ça nous permet pour l'instant, on est dans un espèce d'entre-deux, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Mais oui, en tout cas, on va faire en sorte de faire des rankings, de continuer les fiches, de préparer justement toutes les fiches qu'on va faire pendant l'intersaison, parce que ça va arriver assez rapidement, il va falloir se pencher un petit peu là-dessus. Présenter également les événements, on le rappelle, il y a le Senior Bowl fin janvier, il y a le Combine fin février, début mars. Enfin, ouais, il y a tout un tas d'échéances qui vont être importantes pour justement être capable d'évaluer et de voir briller, on va dire, les différents joueurs qu'on pourra retrouver en NFL la saison prochaine. Donc voilà, un programme qu'on détaillera petit à petit, mais en effet qui va s'accélérer notamment à partir de la fin janvier avec les différents événements que j'évoquais et encore une fois ces annonces officielles des joueurs pour leur candidature à la Grande Ligue la saison prochaine.
Et du côté du podcast, vous passerez à deux émissions par semaine après le Super Bowl, des pastilles quotidiennes pendant le mois qui précède la draft. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de choses qu'on tenait à vous présenter pour que vous ayez un petit aperçu. Là, vous, Greg, on a quand même pas mal balayé hein, les quarterbacks, les meilleurs joueurs, oui, les coups de cœur, etc. Et évidemment, vous aurez plus de détails, vous les entendrez rentrer dans le détail de tout ça, dans les émissions qui sont déjà en ligne, dans celles qui arrivent, dans les articles, dans tout ça. Voilà, il va y avoir encore une fois plein de choses. Merci beaucoup Greg et félicitations à toute la team draft dont tu es le représentant, tu vois, à l'antenne aujourd'hui.
Tout à fait, bah merci à eux, merci à toi également. Bonne fête.
Et bah ouais, c'est vrai.
Voilà, fête à tout le monde, voilà. Profitez-en, sortez en petit Marcel, hein, c'est le moment ou jamais le soir du réveillon.
Ah bah ça s'est bien réchauffé.
Ah oui, ça dépend où on est.
C'est bien réchauffé, hein, même dans le nord là.
Non, mais c'est pour ça que je dis ça. Sans mettre de manteau, tu vois, profitons.
Ah bah là, il fait 15 degrés, on est passé de moins 5 à 15 en deux jours, alors il faut... On s'est bien réchauffé là pour le coup.
C'est ça. Bon, fallait miser sur la bûche glacée plutôt que la pâtissière.
C'est ça. Bon, disons que le problème c'est qu'on est passé à 400% d'humidité, mais...
On reste en France.
Voilà, il pleut des cordes, mais bon, c'est le choix. Moins 5 ou il pleut des cordes. Merci beaucoup Greg en tout cas, très bonne fête à toi également, et on se retrouve évidemment très vite dans les émissions, dans les articles, etc. Merci beaucoup Greg pour toutes ces lumières sur la draft. Très bonne journée à toi, ciao ciao.
Merci à toi, ciao.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.